BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good morning business, Sandra Gandoin.
Il est presque 7h, bienvenue dans la matinale de l'économie. Nous sommes en direct jusqu'à 9h sur BFM Business. Les publications des GAFAM pour ses derniers résultats sous la direction de Tim Cook. Apple a présenté un nouveau trimestre record dopé par l'iPhone. Amazon, de son côté, est tiré par le cloud. On fera le point dans cette matinale dans un tout petit instant avec Étienne Braque. Et puis plus de 9 mois après l'entrée en vigueur d'une trêve dans la bande de Gaza, des responsables du Hamas confirme qu'un accord a été trouvé concernant la question des armes et un retrait progressif des forces israéliennes de Gaza. On va y revenir dans le journal. Mes invités, dans la prochaine heure, il dit être la seule société occidentale à disposer de la technique d'extraction du lithium la plus écologique et la plus performante. La société Eurodia lève 18 millions pour continuer à s'étendre, notamment en Amérique du Sud. Son président sera avec moi dans Parole de patron à 7h20. Et puis, il propose de faire de la France, la troisième puissance de l'intelligence artificielle grâce à des investissements massifs mais aussi la rétention de nos talents. Raphaël Dohan, essayiste et haut fonctionnaire français, sera dans le grand entretien à 7h45. Tous nos invités, toutes nos chroniques, la matinale de l'économie, c'est parti, soyez les bienvenus.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Connectez-vous sur bfmbusiness.com et suivez le fil de l'actualité économique.
Good morning business. Le journal.
Les publications et encore un trimestre record chez les GAFAM avec Apple hier qui a publié un profit net en hausse de 27% par rapport à l'an dernier, 29,8 milliards de dollars au deuxième trimestre. Étienne Braque, hier soir, en plus de cela, Tim Cook a présenté ses derniers résultats en tant que directeur général.
Jusqu'à partir du 1er septembre, c'est John Ternus qui va prendre la relève. Alors, ce qui a marqué les analystes hier dans la publication de ces résultats d'Apple, c'est la vigueur de la croissance de l'iPhone, puisque vous avez des ventes en hausse de plus de 22%, 54 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour l'iPhone lors du dernier trimestre. C'est tout simplement historique. Ça a surpris dans le sens où, habituellement, quand il y a un nouvel iPhone qui va sortir, hein, chaque année c'est en septembre, bah vous attendez un petit peu le nouveau modèle, soit pour acheter le nouveau, soit pour attendre une baisse de prix sur les anciens iPhones. Bah non, cette année c'était pas le cas. L'iPhone 17 continue sur sa lancée. Les ventes de Mac également, très vigoureuses. 29% de croissance pour le chiffre d'affaires de l'activité Mac, avec les ordinateurs portables à moins de 800 euros d'Apple qui continue de gagner des parts de marché sur le segment des PC. La seule déception, et c'est ce qui explique d'ailleurs le moins 6% hier soir en après-bourse, c'est le segment service dont la croissance ralentit. Ça regroupe notamment l'App Store, iCloud ou encore Apple Music. Et puis, la certaine forme de prudence également de Tim Cook sur le sujet des semi-conducteurs. Oui. On en parle tous les jours sur ce plateau, les Skylix, les Samsung, les pénuries de mémoire RAM, l'envolée des prix, etc. Alors là, ça n'a pas joué sur les résultats du deuxième trimestre. Marge brute quand même, 50% chez Apple. On est toujours sur des plus hauts historiques. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des stocks chez les distributeurs, dans les magasins, puis également chez Apple. Mais par contre, ça risque de peser sur le trimestre en cours, sur le troisième trimestre et au-delà. Hier soir, Tim Cook a dit, si l'on regarde au-delà de septembre, nous constatons que les prix de marché de mémoire continueront d'augmenter, ce qui pourra avoir un impact croissant sur notre activité. Donc, il faut s'attendre à une petite baisse tout à l'heure à Wall Street. Bon, il ne faut pas oublier que le titre a touché des plus hauts historiques cette semaine. Première capitalisation mondiale, 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, plus 23% depuis le début de l'année.
On parlera d'Amazon, évidemment, dans une demi-heure avec vous, Étienne Braque. Et pendant ce temps, l'Union européenne lance un giga-appel d'offres pour la construction de data centers. Bruxelles annonce mobiliser 30 milliards d'euros pour réduire sa dépendance aux géants américains et asiatiques dans l'intelligence artificielle. Paul Valère.
Faire de l'Europe un continent de l'IA. Avec son appel d'offres XXL doté de 10 milliards d'euros d'argent public et 20 milliards issus du privé, Bruxelles veut changer d'échelle. 18 États membres, dont la France et l'Allemagne, s'allient pour financer la création de 7 centres de calcul dédiés à l'IA. Le gouvernement français s'est positionné pour accueillir l'un d'entre eux. Les lauréats seront désignés en début d'année prochaine, premier coup de pelle espéré dès le premier trimestre. Les premières mises en service sont-elles attendues dès 2028 ? Ces méga-factories devront bien entendu être installées au sein de l'UE et respecter des critères de souveraineté. Leur puissance de calcul sera mise à disposition des entreprises, chercheurs, universités et autres organismes européens. Ces 7 mégasites viendront s'ajouter à 19 centres de données pour IA déjà localisés sur le continent. Bruxelles veut in fine tripler la capacité des data centers européens d'ici 2032, mais il faudra du temps pour rattraper notre retard sur les États-Unis et l'Asie, notamment en matière de puces. Faute de mieux, Bruxelles s'appuie encore sur des fabricants américains comme AMD, Nvidia et Qualcomm.
Dans l'actualité internationale, les yeux sont tournés vers la reprise des combats au Moyen-Orient, mais par ailleurs, le Hamas consent à un accord de désarmement dans la bande de Gaza. Plus de 9 mois après l'entrée en vigueur d'une trêve dans la bande de Gaza, des responsables du mouvement ont confirmé qu'un accord avait été trouvé concernant la question des armes et un retrait progressif des forces israéliennes de Gaza. Donald Trump affirme de son côté sur son réseau social qu'Israël quittera la bande de Gaza une fois que le Hamas sera désarmé. Et dans ce contexte géopolitique instable, ce nouvel exemple de l'inflation des dépenses militaires dans le monde, le tout nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham était hier sur le site de BAE Systems dans le nord-ouest de l'Angleterre pour annoncer un investissement massif de 10 milliards d'euros dans la flotte de sous-marins nucléaires. Investissement stratégique mais aussi industriel. Clara Bido.
Derrière cette enveloppe, un objectif, renouveler la flotte qui assure la dissuasion nucléaire britannique. Concrètement, le groupe de défense BAE Systems est chargé de construire 4 sous-marins à propulsion nucléaire. Le premier, le HMS Dreadnought, doit commencer ses essais en mer avant d'entrer en service au début des années 2030, indique Downing Street. Ce budget permettra aussi d'accélérer le deuxième bâtiment du programme, le HMS Valiant, et de lancer la construction des 2 suivants. Mais ce plan est aussi pensé comme un investissement pour l'économie britannique. Le gouvernement promet 47 000 emplois et formations, aussi bien sur les chantiers navals que chez les nombreux sous-traitants mobilisés pour le programme. L'idée est donc de renforcer à la fois les capacités militaires du pays et sa base industrielle. Et ce n'est qu'une étape. Selon Downing Street, c'est plus de 73 milliards d'euros qui doivent être consacrés à la dissuasion nucléaire britannique sur les 4 prochaines années.
Retour en France avec Doctolib qui veut utiliser toutes les données de santé sur sa plateforme pour la recherche médicale. Le site de rendez-vous en ligne lance un programme scientifique à base d'intelligence artificielle, ce qui suscite beaucoup d'inquiétudes chez les associations de patients. Hélène Cornet.
Doctolib veut améliorer le parcours de soins de ses 50 millions d'utilisateurs, anticiper l'évolution d'une maladie par exemple, ajuster le traitement ou alerter sur une situation d'urgence. Le site va fournir à des équipes de chercheurs l'intégralité de ces données pour les passer au scanner de l'intelligence artificielle. Médicaments, ordonnances, analyses, elles seront anonymes et conservées 5 ans maximum. Le consentement des patients est accordé par défaut, tout comme celui des médecins, à moins de remplir un formulaire en ligne. Doctolib dit respecter les règles de la CNIL. Les données sensibles seront chiffrées dans un environnement clos et sécurisé. Ce n'est pas suffisant, selon beaucoup d'internautes. La Ligue des droits de l'homme et l'association Que Choisir qui mettent en avant les cyberattaques qui se multiplient dans le domaine de la santé. En mai dernier, la plateforme Almeris s'était fait dérober les données de millions de clients. L'hiver dernier, c'était Cegedim qui était la proie des hackers avec le piratage d'un logiciel contenant les données administratives de 15 millions de Français.
Presque 7h07, les marchés tout de suite. Avec un net rebond hier soir à Wall Street, Étienne Brack avec les résultats trimestriels.
Le S&P 500 a gagné 1,7% à la clôture, le Nasdaq plus de 3% grâce à Microsoft. Accrochez-vous bien, le titre a gagné 15,5% hier soir après la publication des résultats de mercredi. C'était la meilleure séance pour le titre depuis 2008 avec, souvenez-vous, une croissance pour le cloud, pour Azure qui était largement au-delà des attentes, 43% de progression sur le chiffre d'affaires de cette activité. Séance totalement folle également ce matin pour la bourse de Séoul qui gagne 14%, avec notamment Samsung qui gagne 22% ce matin. SK Hynix gagne plus de 10%. Alors souvenez-vous, SK Hynix avait perdu 10, 15, 20% même en séance en milieu de semaine.
Oui, vous l'aviez dit que ça allait remonter le Kospi. Hein.
Ah oui, alors le Kospi fait moins 10, plus 10, pas tous les jours, mais presque. Alors là, ce qui joue sur la séance, visiblement, c'est les résultats de Microsoft, les résultats d'Apple. Et puis vous avez également le patron de SK Hynix qui a annoncé hier acheter des titres. Visiblement, il s'est dit, tiens, mon titre a baissé, c'est une opportunité d'achat. Ouais. Donc il a racheté un peu plus de 3 millions de dollars d'actions SK Hynix et donc vous avez aujourd'hui ces valeurs liées aux semi-conducteurs à la bourse de Séoul qui s'envolent d'une façon spectaculaire. Tokyo, par la même occasion, gagne un peu plus de 4% ce matin.
Une belle séance également à Paris pour le CAC 40, Étienne.
Quasiment 1% de hausse à la clôture, 8485 points. Le CAC 40 qui est sur un plus haut de début juillet avec Schneider Electric qui avait revu ses résultats hier matin à la hausse. Le marché a applaudi, plus 10% à la clôture. Bouygues, plus 7% avec une une très bonne activité pour Equans. Société Générale, résultat historique plus 5%. Le groupe qui rachète un programme de rachat d'actions. À l'inverse, Sanofi a un petit peu pesé sur la séance, moins 9% à la clôture. Et puis un mot quand même de Wavestone. Là, on sort du CAC 40, on est dans les petites valeurs. Wavestone, qui était un cabinet de conseil, qui s'est effondré de 30%. Donc les résultats d'entreprise apporte quand même un lot de volatilité énorme en ce moment. Pourquoi ? Parce que les résultats étaient en dessous des attentes. Wavestone qui vous dit beaucoup d'attentisme en ce moment de la part des entreprises. Et les entreprises, elles font des choix. Aujourd'hui, elles mettent le paquet sur l'intelligence artificielle. Et donc, ça se fait au détriment des autres activités. Et quand vous avez un groupe de consultants, si vous avez une petite baisse de votre activité, votre consultant, il faut quand même le payer. Donc, en fait, vous avez une érosion des marges. Et ça, ça a inquiété hier les investisseurs. Et quand même, à moins 30%, ça n'arrive pas tous les jours.
Merci, Étienne. Brac, le plus tout de suite.
Good morning business, le plus.
Et on vous parle ce matin de Citroën Racing qui fait son grand retour dans la compétition automobile. Fort d'un passé triomphant dans le rallye, le constructeur français s'est lancé dans un tout nouveau défi, celui de la Formule E. On va partir à Monaco, épreuve phare de la compétition électrique. Reportage d'Éline Lefaou.
Pour sa première saison, Citroën met le turbo. Un binôme de pilotes habitués des podiums. L'un est français, l'autre néo-zélandais. Et un engagement au plus haut niveau. Livraison prochaine d'un nouveau simulateur. Rapatriement intégral de l'équipe Citroën Racing dans les locaux de Stellantis Motorsport. Tout cela mis au service de leur monoplace, qui plus est presque entièrement modulable. Mika, ingénieur de course chez Citroën.
La voiture Citroën, en fait, et la Formule E en général, c'est vraiment l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut vraiment travailler sur tous les aspects de la voiture, que ce soit aussi bien d'un point de vue du logiciel que de la voiture en termes de mécanique. On peut créer notre propre voiture, créer notre propre logiciel.
Dès l'année prochaine, le constructeur français devra pourtant partager la lumière avec une autre marque du groupe Stellantis, Opel, qui prend la place de DS. Une arrivée à point nommé pour Citroën qui a pour ambition de renforcer sa notoriété sur le marché allemand. Mais la marque tricolore compte bien surpasser sa rivale, surtout avec l'arrivée de la Gen 4 dans le championnat. Dorian Pain, nouvel pilote de développement de l'écurie française, a pu faire plusieurs essais avec le monoplace.
Et c'est 800 chevaux, donc direct dans les roues, on ressent vraiment la puissance. C'est une voiture très joueuse aussi, qui bouge quand même pas mal, donc c'est très fun à rouler. Donc voilà, je pense que ça va être un championnat qui va être de plus en plus intéressant à suivre.
Plus qu'un clin d'œil à son histoire sportive, avec la Formula E, Citroën entend rebooster une image de marque. Image en perte de vitesse sur le marché européen, reconnaît son directeur général, Xavier Chardon.
Ce qu'on vient chercher, c'est de l'exposition, de la notoriété, mais aussi de pouvoir avoir une plateforme pour animer nos équipes en interne. C'est au moins aussi important de redonner de la fierté aux équipes. On en avait besoin, la marque a été un peu secouée les dernières années.
Une arrivée qui coïncide aussi avec le récent virage du groupe vers l'électrique.
La voiture que vous voyez aujourd'hui à Monaco, c'est pas la voiture que vous allez voir lundi dans nos showrooms, mais en tout cas, cette électrification qu'on accélère sur notre gamme, bien en fait, aujourd'hui, c'est un formidable banc d'essai pour fiabiliser nos voitures et encore les améliorer en termes d'aérodynamique, en termes de régénération au freinage.
Contrairement à Peugeot avec la 208 GTI ou Opel et sa GSI, Citroën ne compte pas se servir de son retour en compétition pour lancer une gamme plus sportive. La Formule E reste à part, d'autant que le constructeur doit encore faire ses preuves. Lors du week-end, aucun point n'a été remporté par l'écurie tricolore.
Good morning business, face à le Chypre.
Face à le Chypre, le débat ce matin. Face à le Chypre, il y a Étienne Brac et nous allons parler des banques. Et du financement des candidats à l'élection présidentielle, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale a annoncé qu'il ne le ferait pas, financer les candidats de l'élection présidentielle. Le groupe bancaire estime que le risque est trop important. Étienne, est-ce que c'est le rôle des banques de faire ça ?
Pas vraiment. Alors pour rappel, une banque, elle prend pas vraiment de risque en finançant des grands partis, puisque l'État rembourse les dépenses de campagne si le candidat arrive au-delà des 5%. Donc pour une banque, financer un grand parti politique, c'est pas vraiment un risque. Non, si vous écoutez Daniel Ball du Crédit Mutuel, le plus grand des risques, c'est le fait que à la fin, le candidat ne se fasse pas valider les comptes de campagne. Et puis alors le deuxième argument qui est pas mis en avant, mais qu'il faut comprendre entre les lignes, c'est le risque de réputation. Une banque, même si elle ne fait pas de politique, elle pourrait être accusée de soutenir tel ou tel parti et de financer sa campagne pour un parti d'extrême. Aujourd'hui, le risque de réputation, il est quand même très grand pour une banque française. Et c'est l'un des pires pour les banques. Regardez le nombre de fois où les banques françaises ont été accusées de greenwashing ou d'appel au boycott, car elles ont financé souvent, en plus pour des montants totalement négligeables, des projets gaziers ou pétroliers. Vous vous retrouvez avec des assemblées générales qui sont perturbées, des clients qui vous disent « Ah bah, puisque c'est comme ça, moi je m'en vais, je clôture mon compte ». Donc en fait, à la fin, quand vous faites la balance bénéfice-risque, ça vaut pas le coup d'y aller. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez financer quelques millions d'euros, donc les revenus potentiels sont totalement négligeables, et derrière ça, vous vous retrouvez avec du bad buzz, beaucoup d'articles dans la presse, du débat public, et ça, après, vous allez le traîner pendant des mois, voire même des années.
Emmanuel Le Chypre.
Ah, je suis totalement en désaccord avec tout ce que vient de dire Étienne. Pauvres banquiers qui prennent en fait très peu de risques, parce que la réalité, c'est que dès qu'une banque risque de faire faillite, tout le monde la sauve avec les impôts. Donc ce serait bien normal quand même que les banques contribuent un minimum à la vie démocratique. Parce que, un, sans financement, vous n'avez pas de pluralisme démocratique. C'est ça la réalité. Effectivement, une campagne, aujourd'hui, c'est plusieurs millions d'euros. Très peu de partis disposent d'une trésorerie suffisante. Donc, si vous n'avez pas d'accès au crédit, ça veut dire quoi ? Il n'y a que les grands partis déjà installés qui pourront faire campagne. Il n'y a que les plus riches qui pourront être candidats, ceux qui ont des fortunes personnelles, genre Donald Trump. Ah bah oui, on veut des candidats riches à la Donald Trump, bien sûr. Ou bien seront candidats ceux qui sont financés par des donateurs plus ou moins obscurs, dont on ne sait pas très bien d'où ils tirent leur argent. Ça veut dire que vous ne laissez aucune chance d'émergence à des nouveaux mouvements politiques. Ça veut dire que vous n'avez aucune chance d'avoir des candidats de la société civile qui puissent apparaître. Donc, en gros, on ne demande pas aux banques de financer une idéologie, on demande juste aux banques de financer la vie démocratique. Et puis, les banques, elles n'hésitent pas quand même à financer des activités beaucoup plus risquées que la vie que celles qui sont liées à une élection. Quand vous prenez une start-up avec des PME fragiles, avec des projets immobiliers, avec des entreprises en restructuration, vous pouvez quand même prendre ces risques-là. Alors, le remboursement, il est quand même largement garanti par l'État. Étienne a évoqué effectivement les 5%. La problématique aujourd'hui, c'est plutôt cette problématique d'invalidation des comptes de campagne, où là, il n'y a plus de remboursement qui tienne, mais il n'y a pas grand-chose à inventer. En fait, il y a déjà eu une réunion au mois de juillet entre les banques et Matignon pour essayer de régler ce problème-là. Alors, ça ne satisfait pas le crédit mutuel, mais bon...
est-ce que toutes les banques sont égales face au problème, justement ?
Oui, alors il y en a quelques-unes qui déjà ne financent plus. Beaucoup sont restées assez silencieuses jusqu'à maintenant sur le sujet. On sait que la Société Générale, par exemple, ne finance plus de partis. Bon, c'est un choix, mais du coup, vous vous retrouvez, encore une fois, avec des risques de financement qui sont beaucoup plus problématiques, et puis on demande quand même aux banques d'avoir, oui, un comportement civique. Donc moi, je pense qu'il devrait y avoir une obligation, un peu comme vous avez l'obligation de vous assurer, il devrait y avoir une obligation pour les banques de faire des propositions aux partis, et après les partis, voilà, et puis on invente une petite garantie, c'est quand même pas la mer à boire. Mais c'est trop facile aujourd'hui, on comprend qu'elles ont peur de toute façon, les banques, elles ont peur de tout. Dès qu'on les accuse de financer, Étienne a raison, dès qu'on les accuse de financer des projets un peu trop gris et pas assez verts, on leur tombe dessus, etc. Bon, c'est un métier qui est devenu un métier excessivement frileux, donc ils sont pas courageux, nos banquiers, et ça, il faut les obliger à participer à la vie démocratique.
Étienne, pour finir.
On arrive quand même au bout de quelque chose quand vous voyez le RN qui est obligé de se tourner vers une banque hongroise. C'était le cas notamment en 2022 pour trouver 10 millions d'euros parce qu'il n'y a aucune banque qui voulait les financer. Qu'on soit d'accord ou pas avec le RN, ça pose quand même des questions de se tourner vers une banque étrangère. En plus, à l'époque, c'était une banque qui était proche de l'ex-premier ministre hongrois Viktor Orban. Des questions de dépendance, d'ingérence politique. Quand vous regardez la France insoumise, alors eux, ils tournent le problème différemment. Ils vous disent, non mais de toute façon, on ne veut pas se tourner vers le système bancaire. On fait appel, en fait, à des dons, des dons, mais aussi à des prêts à taux zéro. C'est-à-dire que vous avez des militants et les filles qui prêtent de l'argent à taux zéro pour financer la campagne présidentielle. Vous voyez bien quand même que tous les partis ont aujourd'hui des problèmes. Donc, il faut trouver un système qui passe par l'État, sachant qu'une fine, dans la plupart des cas, à la fin, c'est quand même l'État qui paye. C'est-à-dire qu'en plus de prêter, eh bien derrière, elle financerait tout cela. Et ça permettrait aujourd'hui l'émergence de petits partis politiques qui n'arrivent pas à financer leur campagne.
Oui, mais la vie démocratique a un coût et les banques doivent aussi l'assumer. Une démocratie sans crédit, c'est une démocratie réservée aux riches et ça, c'est insupportable.
Merci beaucoup, messieurs. Le débat retrouve évidemment en replay sur notre appli, sur notre site Culturia, le meilleur de l'année.
Good morning business, Culturia.
Anthony Morel, et si votre prochain job, c'était d'apprendre à une IA à faire votre métier ? faudrait être fou pour faire ça. Ça.
Oui.
C'est une tendance qui est en plein essor aux États-Unis.
Oui, absolument. Alors c'est vrai que c'est un phénomène qui est assez troublant. On pourrait même dire complètement cynique. Mais il y a des entreprises d'IA qui se sont créées sur ce modèle très particulier, qui est de proposer à des humains, à vous et moi, eh bien d'entraîner l'IA dans des tâches pour lesquelles vous êtes expert et donc à terme de vous auto-remplacer, si l'on peut dire. Et ça fonctionne très 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 bien. Il y a une entreprise notamment qui s'appelle Mercor qui embauche aujourd'hui des dizaines de milliers de freelances. Donc ça peut être aussi bien des développeurs informatiques, des juristes, des consultants, des journalistes. Et donc le principe, c'est qu'on s'inscrit sur la plateforme, on passe un petit entretien d'embauche avec une IA pour vérifier qu'on est bien expert de son domaine. Et à partir de ça, on va vous proposer eh bien, des tâches à réaliser pour le compte de l'IA. Donc par exemple, un juriste, on va lui faire lire des contrats ou des clauses de non-concurrence qui ont été rédigées par ChatGPT. Et il va devoir détecter ce qui va pas. Ah, là, il y a une hallucination. Ah, là, il y a quelque chose qu'on pourrait améliorer. Un journaliste, il y a des journalistes sur la plateforme, on va lui faire lire des tonnes et des tonnes d'articles générés par l'intelligence artificielle. Il va dire, ah non, mais là, cette formulation-là, on pourrait peut-être l'améliorer. Ça plairait plus à un lecteur humain. En fait, tout ce qui est impalpable pour l'intelligence artificielle, l'amélioration des modèles pour pouvoir être plus performante et mieux plaire aux êtres humains, eh bien en fait ce sont des humains qui vont faire ce boulot-là pour l'intelligence artificielle. C'est pas mal payé, hein. Pour un juriste par exemple, c'est de l'ordre de $150 de l'heure pour analyser des textes générés par l'intelligence artificielle, et ça fonctionne très très bien. Il y a plus de 30 000 freelances inscrits sur la plateforme aujourd'hui.
Ça dure qu'un temps, parce qu'après ben, vous n'avez plus rien à lui conseiller, oui. Vous n'avez plus rien à lui apprendre.
C'est tout le problème. Ouais, c'est exactement ça. C'est un modèle qui est autodestructeur par nature. C'est-à-dire qu'une fois que les modèles d'IA auront intégré tous les enseignements de ces entraîneurs humains, évidemment, elle aura plus besoin d'eux. C'est tout le problème. C'est la première fois dans l'histoire qu'un métier consiste à apprendre à une machine à faire disparaître ce métier. Et l'ironie dans tout ça, c'est qu'en fait, sur cette plateforme, eh bien, on trouve notamment des gens aux États-Unis, qui ont été, bah, par exemple, qui ont perdu leur boulot à cause de l'intelligence artificielle. Et donc du coup ils ont plus de boulot et donc ils se recyclent sur cette plateforme et ils apprennent à l'intelligence artificielle à virer d'autres gens dans leur secteur. Non mais c'est un truc complètement dingue, et c'est vrai dans tous les secteurs d'activité. Par exemple, il y a une autre entreprise, on parlait de Mercor, mais vous avez aussi Handshake AI. Eux par exemple, en ce moment ils embauchent des comédiens sur le même modèle. Donc ils demandent, c'est bien payé, hein, c'est 70€ de l'heure, et en fait les comédiens vont se mettre devant leur ordinateur et ils vont faire de l'impro. Donc on va leur demander, réponds à l'intelligence artificielle, joue tel personnage. Et en fait, l'IA va analyser comment le comédien joue de manière à ce que l'IA soit de plus en plus réaliste dans les interactions qu'elle a avec l'être humain. Donc en fait, on est vraiment dans la naissance d'un nouveau marché du travail où l'humain devient une sorte de matière première pour entraîner la machine d'une certaine manière.
Alors il y a encore plus fou, il y a une plateforme qui propose de louer votre corps à une IA.
Oui, c'est ça. Ça s'appelle Rent a Human, littéralement louer un humain. Donc oui, parce que l'IA aujourd'hui, elle a quand même une limite majeure, c'est qu'elle est cantonnée à nos écrans. Elle ne peut pas sortir de l'écran. Un jour, on aura des robots à tout faire et ce sera possible, mais pour l'instant, c'est pas possible. Et donc là, le principe de cette plateforme, eh bien, c'est que l'IA réfléchit et l'humain exécute. On va servir de bras et de jambes à l'intelligence artificielle qui va vous donner des missions à réaliser dans le monde réel pour pouvoir améliorer ces modèles. Donc ça peut être, je sais pas, aller dans un supermarché, par exemple, prendre une photo d'un produit, noter le prix, aller dans un restaurant, tester tel plat et me dire ce que vous en avez pensé. Et tout ça, ça va servir en fait à entraîner les modèles d'intelligence artificielle.
C'est l'IA qui vous donne des ordres.
C'est l'IA qui vous donne des ordres et vous êtes payé pour ça. Et il y a plein de gens qui s'inscrivent sur ces plateformes, hein. Donc là aussi c'est payé, alors ça va de 1 à 100€ la tâche, ça dépend de ce qu'on vous demande de faire. Donc c'est vraiment la gig economy mais version IA.
Good morning business. Parole de patron.
Parole de patron, ce matin je reçois Mathieu Bailly, bonjour.
Bonjour.
Président d'Eurodia. Vous allez me rappeler ce que fait Eurodia. On est ici dans l'extraction du lithium.
Oui, exactement. Eurodia est une société basée à Pertuis. Nous sommes 120 collaborateurs et notre métier, c'est la fourniture d'ensembles industriels dans le domaine de la purification des liquides. Donc on conçoit, construit, installe un peu partout dans le monde des unités de purification dans tout un tas de domaines industriels, dont celui de l'extraction du lithium.
Ce que ça change, c'est que cette extraction du lithium, normalement, c'est pas très écolo. Vous avez justement la technologie, une technologie plus économe en eau, plus écologique et plus performante. Comment vous arrivez à ça ?
Alors, on arrive à ça avec beaucoup de R&D au départ. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que Rodia est dans ce secteur particulier et a développé au niveau expérimental laboratoire, puis des démonstrateurs, puis accompagné des acteurs majeurs de la production de lithium pour pouvoir proposer des technologies qui sont effectivement plus respectueuses de l'environnement tout en ayant des objectifs naturellement de performance et économique les plus élevés possibles.
Vos clients, c'est Eramet, c'est Rio Tinto, c'est les gros extracteurs, en effet, qui d'autre ?
Alors, on est sur un certain nombre de sujets dont on pourra parler dans les semaines qui viennent, puisque bien entendu, nous sommes très actifs sur le secteur, notamment en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. L'Australie sera certainement un terrain de jeu futur pour Rodia, mais les profils des clients de Rodia dans le domaine du lithium sont deux catégories, des très grosses sociétés comme Eramet ou Rio Tinto, et puis parce que le lithium est un composé qui intéresse un certain nombre de start-up françaises, européennes, nord-américaines qui cherchent à investir et qui donc ont des besoins de technologies performantes d'extraction de lithium.
Vous nous rappelez le lithium, c'est un composé qui rentre dans quelle fabrication par exemple ?
Dans toutes les fabrications de batteries électriques, que ce soit celle de nos smartphones ou bien entendu les besoins sont drivés beaucoup par la mobilité électrique.
Vous êtes présent dans 50 pays, 80% de votre chiffre d'affaires est réalisé donc à l'international. Il y a beaucoup de mines là-bas, effectivement, en Amérique du Sud, où vous allez vous étendre. Vous venez de lever 18 millions d'euros. C'est une première pour l'entreprise.
Oui, c'est une étape qui correspond à son degré de maturité, je dirais. Ouais. Nous passons de l'agroalimentaire à des domaines plus macro en termes de production, et nous avons besoin de capter la croissance. Pour capter la croissance, on a besoin de trois choses. La première, évidemment, des technologies performantes. La deuxième, une crédibilité financière, par rapport à des acteurs qui ont des attentes par rapport à ses fournisseurs. Et puis, des savoir-être qui permettent de se différencier. On ne prend pas seulement des contrats parce qu'on a des bonnes technologies, on prend aussi des contrats parce qu'on a les équipes qui peuvent faire comprendre aux clients qu'on va l'accompagner sur le long terme, parce que les projets dont nous parlons s'étalent sur plusieurs années. Des projets industriels comme ceux-là, on rencontre toujours des problèmes, et la préoccupation principale de nos clients, c'est de dérisquer les projets qu'ils vont traverser.
Pour être clair, quand vous signez un projet comme celui-là, par exemple en Amérique du Sud, pour un très gros client, vous signez et une fois que c'est fait, vous vous installez avec lui, il finance votre installation, le système sur son site d'extraction, c'est
oui,
ça ?
Oui, absolument. On a fait un choix de développer une engineering totalement intégrée en France, et une fabrication qu'on souhaite le plus française possible, mais qui est européenne pour ce type de technologie, dont nous avons une spécificité, c'est la construction, ce qu'on appelle sur skids, qui permet de transporter des grands ensembles industriels un peu partout dans le monde. Et nous exportons donc en ce moment majoritairement dans le cône sud de l'Amérique du Sud.
Le but, pour finir, c'est aussi de financer des projets industriels de plus en plus importants. Je disais juste avant cette interview que ça y est, la France commence à avoir des projets de ce type qui commencent réellement à... On commence à les voir peut-être à pouvoir créer les fameux champions européens dont qu'on espère tant dans d'autres domaines.
Oui, absolument. Moi, en tant qu'ambassadeur French Fab, je suis très attaché effectivement à la promotion de l'industrie française, et vous avez tout à fait raison. Dans tout un tas de domaines, les nôtres, mais dans tout un tas d'autres, il y a effectivement des champions français qui sont en train de monter et qui commencent à faire rayonner une image de haute technologie, d'accompagnement des clients à l'international.
Et ça, finalement, beaucoup dans le domaine écologique, c'est, vous l'avez dit, le résultat d'années et d'années de recherche et développement. C'est peut-être ça, le pessimisme qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a attendu ces projets très longtemps et que ça y est, commence à arriver.
Oui, absolument, mais les projets en question sont des projets d'ampleur. Quand on parle de production de lithium, on parle d'investissement de plusieurs milliards dont les décideurs, dans le climat géopolitique qui est le nôtre, prennent peut-être un peu plus de temps qu'à l'habitude pour les déclencher. Et donc, il nous faut être prêts, et donc avoir une R&D mature, des propositions industrielles pérennes. Je crois qu'on en est là aujourd'hui, effectivement.
Et c'est rassurant. Merci beaucoup, Mathieu Bailly, d'être venu ce matin, président de Rodia, dans la matinale de l'économie. Dans un instant, le journal de 7h30, on va revenir sur les publications, les GAFAM et notamment Amazon. On va voir ça avec Étienne Braque, à tout de suite.
Good Morning Business, le journal.
Les titres à 7h30, les résultats très solides d'Amazon dopés par le cloud, on va y revenir. Le marché automobile mondial qui reste en panne, mais les voitures électriques qui continuent d'accélérer. Et puis Javier Milei veut réformer la Banque centrale d'Argentine. Après Microsoft et Meta mercredi, Apple et Amazon ont donc publié hier, et c'est encore bien au-delà des attentes. Amazon annonce 62 milliards de dollars de profit net au dernier trimestre, soit plus du triple de celui d'il y a un an. Étienne Brack, comme chez Microsoft, c'est le cloud qui a tiré la croissance.
Avec une croissance pour AWS de plus de 37% en l'espace d'un an pour le chiffre d'affaires. AWS, bien sûr, c'est l'activité la plus importante d'Amazon. On parle bien sûr souvent du site de e-commerce, mais c'est bien le cloud AWS aujourd'hui qui est l'activité la plus rentable du groupe, avec quand même une marge opérationnelle de près de 40%. Là où c'est là aussi largement au-delà des attentes. Alors hier soir, Amazon dit, au vu du contexte actuel, on va encore augmenter nos dépenses d'investissement. Finalement, ça ne sera pas 200 milliards de dollars, mais 220 milliards de dollars. Le groupe dit, de toute façon, aujourd'hui, on n'arrive pas à répondre à la demande, que ce soit sur le cloud et sur l'intelligence artificielle. Donc, on va encore investir plus d'argent. Et en 2027, il y aura toujours des contraintes vis-à-vis de l'offre chez Amazon. Du côté du segment e-commerce, là aussi, c'est au-delà des attentes, avec quand même une progression du chiffre d'affaires de 16% en Amérique du Nord, plus 15% à l'international. Et puis, un groupe hier soir qui s'est montré plutôt confiant dans l'exercice en cours, ce qui a provoqué une envolée du titre en après-bourse de près de 9%, même si ce fameux résultat net de 62 milliards de dollars est à prendre avec beaucoup de pincettes, parce qu'en fait, dans les 62 milliards, vous avez 53 milliards qui viennent du gain en cours de la participation d'Anthropic. Donc quand vous regardez le résultat opérationnel, on est très loin des 62 milliards, comme chez Microsoft et chez Google ces derniers jours. Ces résultats, bien sûr, sont boostés par les prises de participation dans des startups, mais ça, le marché en fait fi, et donc il a très largement acheté la publication hier soir après la clôture.
Merci Étienne, on vous retrouve dans un instant pour le point marché des résultats semestriels aussi dans l'automobile. Ferrari en bonne forme, le constructeur de luxe italien enregistre un bénéfice net de 463 millions d'euros au deuxième trimestre, en hausse de 9% sur un an, une dynamique qui pousse Ferrari à revoir légèrement à la hausse ses prévisions pour 2026. Explication Justine Vassogne.
Ce trimestre, Ferrari a dépassé les attentes des analystes avec un bénéfice en hausse de 9% sur un an et un chiffre d'affaires en augmentation de 8%. Le constructeur a pourtant vendu un peu moins de voitures, 128 de moins précisément qu'il y a un an, mais il en a livré des plus chères avec de bons résultats pour sa Ferrari F80 vendue en édition limitée à 3,6 millions d'euros. Mais ce qui porte le groupe, explique son PDG Benedetto Vigna, ce sont surtout les demandes de personnalisation des voitures. Les clients veulent de plus en plus modifier leurs véhicules pour les rendre uniques. Ça porte gros à Ferrari, lui permettant même vision pour 2026. Le carnet de commandes du constructeur est rempli jusqu'à la fin 2027. Le groupe se dit très satisfait des prises de commandes sur la Luce, sa première voiture 100% électrique, qui avait pourtant provoqué un tollé à son lancement. La plupart des aficionados de la marque la jugeant tout simplement moche. Selon le FT, Ferrari aurait en deux mois atteint ses objectifs de vente annuels pour la Luce et écoulé 500 modèles grâce à une forte demande en Chine.
Et pendant ce temps, le marché automobile mondial reste en panne, mais les voitures électriques continuent d'accélérer. Elles devraient représenter près d'un tiers des voitures neuves vendues dans le monde cette année, François-Xavier Roux.
Effectivement, Sandra, l'électrique continue de grappiller des parts de marché. Rappelez-vous, les ventes de voitures électriques représentaient en 2024 20% des ventes, 25% en 2025, et cette année, ce chiffre devrait s'élever à 29%. L'Agence internationale de l'énergie s'attend à ce qu'environ 23 millions de véhicules électriques soient vendus cette année, soit une hausse de 10% comparée à l'an dernier. Et cela s'explique par la crise énergétique liée au conflit au Moyen-Orient et la hausse des prix des carburants. Les ventes ont rebondi de 4% au deuxième trimestre pour atteindre 5 millions de véhicules.
Une hausse mondiale particulièrement portée par un continent, l'Europe, François-Xavier.
Exactement, Sandra. L'Europe est clairement le moteur de cette croissance. Les ventes ont bondi de 30% au premier semestre de cette année, comparé à 2025. Dans le détail, l'Allemagne a vendu 140 000 modèles supplémentaires. En France, on est à 95 000 véhicules de plus. En revanche, la dynamique est moins favorable aux États-Unis, où les ventes sont en dessous de leur niveau de 2025, avec une chute de 20%. Même constat en Chine, où les ventes devraient stagner. Les ventes de véhicules électriques devrait représenter environ 13 millions de véhicules cette année, ce qui représente quand même 60% de part de marché. Ce ralentissement est compensé par l'essor de d'autres marchés asiatiques. Les ventes ont quasiment doublé au Vietnam, en Inde, en Corée du Sud ou encore en Australie.
Merci François-Xavier Roux. À l'étranger, Javier Milei a détaillé plusieurs réformes qu'il entend présenter au Parlement, dont celle de la Banque Centrale d'Argentine. Il entend interdire à l'institution monétaire de financer l'État et, je cite, « blinder son président contre les abus de pouvoir politique ». Écoutez-le.
Estamos aquí para presentarles el conjunto de
Nous sommes ici pour vous présenter un ensemble de réformes structurelles, le plus important de ces 91 dernières années. Avec la réforme de la charte de la Banque centrale, nous allons mettre fin à l'escroquerie qui consiste à émettre de la monnaie pour financer la haute sphère publique, dont la conséquence la plus évidente est le taux d'inflation. Une escroquerie plus communément appelée impôt inflationniste, un impôt qui permet d'augmenter les recettes fiscales sans l'autorisation du Parlement.
On revient en France. Jamais depuis 20 ans, les Français n'avaient autant alimenté leur assurance vie au premier semestre. Ils y ont déposé 36 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont retiré. Un placement plébiscité comme jamais. Clara Bidot.
Il faut remonter au premier semestre 2006 pour retrouver un tel engouement des Français pour l'assurance vie. Un succès largement porté par la baisse du rendement du livret A. Tombé à 1,5% depuis février, il ne sera relevé qu'à 1,7% au 1er août. De quoi pousser de plus en plus d'épargnants à prendre davantage de risques pour espérer de meilleurs rendements. Preuve en est, près des trois quarts de la collecte du semestre se sont dirigés vers les unités de compte. Ces placements investis notamment en actions ou en obligations, plus risqués que les fonds euros, mais aussi potentiellement plus rémunérateur. Ce qui contribue aussi au financement de l'économie française, se félicite France Assureur. Une stratégie qui porte l'assurance vie, la collecte est supérieure d'environ 9 milliards d'euros à celle du premier semestre 2025. Le mouvement s'est même accéléré en juin avec 19,3 milliards d'euros versés sur les contrats, soit 12% de plus sur un an, un record pour cette période. Au total, les contrats d'assurance vie représentent désormais un encours de 2162 milliards d'euros, soit 122 milliards de plus qu'il y a un an.
7h38, les marchés. Étienne Brack, une dernière salve de résultats trimestriels ce matin dans le CAC 40.
Avec notamment AXA qui a publié ses résultats à 7h et qui revoit ses perspectives dans le haut de la fourchette avec des résultats trimestriels et sur le premier semestre qui sont au-delà des attentes. Alors à l'instant, on entendait la collecte de l'assurance vie. Bah, ça a notamment profité à AXA hein, qui a vu une très forte collecte sur ses produits vie sur les 6 premiers mois de l'année. Crédit Agricole a également publié ses résultats ce matin. Ils sont supérieurs aux attentes tirées par ses activités de banque de détail mais aussi de gestion d'actifs avec un profit de 2,05 milliards de résultats nets sur le dernier trimestre quand le consensus attendait 1,9 milliard. Hier soir, c'était Saint-Gobain qui a confirmé ses perspectives et puis Euronext également qui a publié ses résultats hier soir avec des résultats largement au-delà des attentes, bénéfices nets en hausse de quasiment 20%, marge d'EBITDA qui augmente encore au-delà des 66%. Donc on a eu beaucoup de résultats d'entreprise cette semaine. Hein.
30 énormément, Étienne, en effet.
Et là, résultat. Et là, quand vous faites le bilan, quand même, vous avez des entreprises qui sont très confiantes pour la deuxième partie de l'année. Alors, toutes n'ont pas revu à la hausse leurs perspectives pour la deuxième partie de l'année, mais il n'y a pas des entreprises qui ont revu de façon forte leurs perspectives non plus. Quand vous regardez hier, Schneider a gagné 10% à la clôture, Bouygues plus 7, Société Générale plus 5, et donc tout cela a permis au CAC 40 de gagner quasiment 1% hier soir à 8 485 points. Voilà donc pour ce cru trimestriel du CAC 40 qui aura animé la séance à Paris, mais cru trimestriel également qui va encore animer la séance aujourd'hui avec donc Amazon qui est attendu en très forte hausse tout à l'heure à 15h30 après la publication de ses résultats, quand à l'inverse Apple, et on en parlera dans 20 minutes dans le journal de 8h, un petit peu déçu sur ses perspectives. Bon, faut pas oublier que le titre a touché encore un plus haut historique cette semaine en devenant la première capitalisation boursière mondiale.
Merci beaucoup Étienne Brack. Dans un instant, il propose de faire de la France la troisième puissance de l'intelligence artificielle grâce à des investissements massifs mais aussi la rétention de nos talents. Raphaël Dohan est dans le grand entretien. À tout de suite.
Good Morning Business, le grand entretien.
Le grand entretien, c'est Raphaël Dohan qui est avec moi, essayiste et ancien haut fonctionnaire. Bienvenue dans la matinale de l'économie.
Bonjour, merci.
On va parler d'intelligence artificielle aujourd'hui. Vous êtes co-auteur de l'opération Prométhée, note publiée dans le Grand Continent qui propose de faire de la France pas de l'Europe, hein, de la France, la troisième puissance mondiale de l'intelligence artificielle. Vous y défendez la création d'un laboratoire français de l'IA, capable de rivaliser avec les États-Unis et la Chine. Expliquez-nous l'idée.
Oui, alors c'est une idée qui nous est venue du fait qu'aujourd'hui, la France n'a en fait pas de stratégie sérieuse en matière d'intelligence artificielle. Alors que c'est en train de devenir, l'IA, un flux vital pour notre économie, un peu au même titre que des ressources comme le gaz, le pétrole ou l'électricité l'ont été jusqu'ici. De sorte que si nous n'avons pas les moyens d'assurer notre propre production de ce nouveau flux vital, nous sommes dépendants de nos fournisseurs. Un peu comme certains pays sont dépendants du gaz russe de Poutine, et on a vu à quel point c'était grave pour leur indépendance nationale. Donc l'idée, ce serait de dire, est-ce que nous avons les moyens de fournir notre propre intelligence artificielle, d'alimenter notre économie, sachant que le risque, si on ne fait rien, c'est que il est double en fait. Il y a d'une part, nous risquons, et ça va, c'est déjà en train d'arriver, ça va s'accentuer au fur et à mesure, de verser des centaines, voire des milliers de milliards d'euros aux Américains pour acheter l'intelligence qui va ensuite alimenter notre économie. Le deuxième risque, bien sûr, c'est que ça donne aux Américains et éventuellement aux Chinois, si jamais on repose sur des modèles chinois, ce qu'on appelle un kill switch, donc la capacité de désactiver instantanément notre accès à ces modèles, peut-être aux modèles les plus puissants, et donc de désactiver quasiment soit notre économie entière, soit au moins les capacités les plus critiques.
On voit bien le danger dans le pire des cas, mais ce que vous dites, moi ce qui m'étonne, c'est que vous ne mettiez pas ça au niveau de l'Europe, parce que les investissements massifs que ça va demander, vous les chiffrez à 620 milliards d'euros sur 3 ans. La France a-t-elle les moyens et la taille de lutter contre des continents, enfin des pays aussi grands que la Chine et les États-Unis?
Alors le grand enseignement de notre plan, ce qu'on a calculé, c'est que oui, alors pas forcément tout seul d'ailleurs, le but n'est pas d'être contre une coalition de partenaires. Au contraire, on pense que ce serait très bien que la France mène un mouvement qui soit rejoint par des pays européens, mais pas seulement. D'ailleurs, le Canada, la Corée ou le Japon pourraient aussi être intéressés. En fait, toutes les puissances moyennes qui n'ont pas envie que s'installe une sorte de duopole entre la Chine et les États-Unis et qui aimeraient qu'un troisième acteur émerge. Alors, oui, les montants sont très, très importants. 620 milliards d'euros donc d'investissement sur 3 ans. C'est une sorte de sprint, en fait, qu'on cherche à faire pour... Ouais. Aboutir à un laboratoire capable d'entraîner des modèles d'IA qu'on appelle de frontières, donc les plus puissants au monde. Et pour faire ça, il faut en fait surtout de la puissance de calcul. Donc des centres de données, des GPU, de quoi faire tourner, entraîner et faire tourner les modèles. C'est ça qui est le plus important et ça demande aussi l'alimentation électrique. Donc ce dont on a besoin, on calcule qu'en 2029, pour avoir le même niveau de puissance que chacun des laboratoires américains aujourd'hui, il faudrait qu'on ait 12 gigawatts de puissance de calcul, ce qui est très très loin de ce qu'on prévoit aujourd'hui d'investir en Europe. Alors la France aurait les moyens de le faire. En réalité, on n'est pas dans des ordres de grandeur si différents, si absurdes que ça, surtout avec d'autres partenaires européens ou pas. Vous savez, depuis le sommet IA qu'il y a eu en 2025, et le sommet Choose France, enfin, le dernier de 2026, il y a eu déjà une annonce de 150 milliards d'euros pour les data centers en France. Là, en l'occurrence, ça veut dire que si on multiplie ce chiffre par 3 ou 4, ce qui n'est pas un ordre de grandeur délirant par rapport à ce qu'on a déjà, on arrive à peu près à l'objectif, sachant que le capital international est tout à fait disposé à investir en France parce qu'on a des atouts majeurs. En premier lieu, le surplus d'électricité qu'on a grâce au nucléaire. Donc tout ça, c'est quelque chose qui attire les investissements étrangers. Et donc le but n'est pas de se fermer d'ailleurs, y compris au capital américain. On peut aussi financer ce projet-là avec de l'argent américain. Le but étant de garder la valeur ajoutée qu'il y a à la fois au centre de données, en plus de l'électricité, et ensuite au modèle d'intelligence artificielle qu'on fait tourner sur ces centres de données.
Alors, mais comment, concrètement, au-delà des investissements étrangers, comment vous le financez? On est dans un pays qui n'a jamais été aussi endetté. Alors certes, il y a de l'épargne, mais comment vous dirigez l'épargne des Français vers ce type de projet, par exemple?
Alors, il y a deux choses. Clairement, si le privé, organiquement l'économie devait faire aboutir un projet comme ça, il l'aurait déjà fait. Enfin, ça a déjà passé. Donc, on pense que l'État doit effectivement lancer un mouvement massif. C'est vraiment un grand effort national à faire.
Ouais.
Il le fait de deux manières dans notre plan. D'abord, en investissant lui-même, effectivement. Mais alors, c'est des sommes importantes, mais évidemment, l'idée, c'est pas que l'État finance les 620 milliards du tout. On pense qu'on peut amorcer la pompe suffisamment avec environ 1% de déficit, 1% du PIB de déficit supplémentaire chaque année, mais seulement pendant 3 ans. Donc, c'est le sprint qui permet ensuite au laboratoire de voler de ses propres ailes et de réinvestir lui-même pour la suite. Mais surtout, il doit également accélérer la construction des centres de données et en fait simplifier les procédures. Donc on imagine une sorte de loi Prométhée, comme il y a eu une loi Notre-Dame, pour faciliter et inciter en fait les investisseurs étrangers à venir et à se raccorder en France. On a vraiment aujourd'hui ce qui intéresse le plus les investisseurs en centres de données, les gens dont on a besoin, c'est ce qu'on appelle le time to power, donc la capacité à se raccorder le plus rapidement possible à la grille électrique. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'offre pas tout à fait aujourd'hui, mais qu'on pourrait offrir avec un changement législatif important. Donc c'est, voilà, le rôle de l'État serait double, à la fois de lui-même mettre au pot pour une petite partie et de manière momentanée, ce qui augmenterait la dette publique de 4% au total à la fin, ce qui ne paraît pas délirant pour quelque chose qui est un vrai investissement pour l'avenir, pour le coup.
Le projet de l'Union européenne de lancer pour 30 milliards des giga-usines LIA avec des centres de données, du coup, ça c'est un projet bon, particulier, pas aussi global que le vôtre, mais est-ce que c'est un bon début ou qu'est-ce que vous y voyez comme défaut?
Ça va dans le bon sens, disons, parce que c'est très bien qu'on construise plus de puissance de calcul en Europe. C'est vraiment le cœur, hein. On oublie parfois un peu, mais la puissance de calcul, c'est le cœur de la puissance tout court en matière d'intelligence artificielle et donc de puissance en général. Le problème, c'est simplement les ordres de grandeur. En fait, là, la Commission européenne a annoncé son appel d'offres sur les gigafactories hier à 30 milliards d'euros. Donc nous, on pense qu'il faut 20 fois plus pour être au niveau d'un laboratoire américain. On ne dit pas d'ailleurs qu'il faut avoir toutes les puissances de feu des Américains qui, eux, ont les reins suffisamment solides pour avoir 4 ou 5 laboratoires qui se font concurrence. Nous, on pense qu'on peut au moins essayer d'en avoir un, ce qui serait déjà extraordinaire et vraiment absolument indispensable si on ne veut pas en fait être soumis et avoir une sorte de vassalisation permanente dans les années à venir.
Ce qui nous pose problème dans l'IA, c'est aussi la souveraineté du côté des puces. Et là, la Chine et les États-Unis ont une avance considérable. Pour le moment, on s'appuie sur des fabricants américains, Nvidia, Qualcomm, et ça, on va avoir du mal à compenser ce retard-là aussi dans les puces.
Oui, clairement, si on lance un projet comme ça, et d'ailleurs on voit avec l'appel d'offres de la Commission européenne, il faut passer par des puces américaines aujourd'hui, au moins au début.
Oui.
Ça c'est certain, il n'y a pas d'autre
choix.
Donc
baser notre souveraineté à nous sur des acteurs étrangers.
Pour l'instant, on est obligé, sachant qu'à la limite, le goulot d'étranglement, il est plutôt du côté de la fabrication des puces, donc vous savez, de TSMC à Taïwan, plutôt que le design des puces qui se fait donc, par Nvidia ou AMD aujourd'hui. On voit que ça commence à se diversifier, que Nvidia ne va pas forcément garder le monopole qu'elle a aujourd'hui. Mais le plus important, c'est que pour moi, la dépendance vitale, celle qui nous rendrait vraiment, qui nous ferait vraiment payer un tribut en quelque sorte aux Américains, ce serait la dépendance au modèle d'intelligence artificielle. Le fait qu'on doive acheter des puces au début pour financer nos investissements d'infrastructure, quitte à ce qu'après une filière européenne se construise dans les décennies à venir, ça me paraît moins grave parce que là, il y a une sorte de latence. Alors que la dépendance au modèle d'IA, c'est quelque chose. On l'a vu avec les contrôles à l'export qui ont été placés momentanément sur les modèles d'Anthropique au début de l'été. C'est quelque chose qui est beaucoup plus soudain, beaucoup plus critique. Et donc, on doit faire un choix entre nos différentes parties de dépendance, sachant que sur la chaîne d'infrastructures nécessaires, l'Europe a aussi des maillons de la chaîne. Il y a ASML, donc la fabrication des machines qui permettent de fabriquer les puces dont on parle souvent, mais il y a aussi des composants optiques qui sont disponibles en Allemagne, par exemple. Donc, on a des atouts à faire valoir aussi de ce point de vue-là.
Une dernière question. Vous ne croyez pas à l'open source ?
Alors, j'y crois pour certains aspects, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'open source, c'est plus l'open source du logiciel d'il y a 10 ans. Pour entraîner un modèle d'IA de frontières aujourd'hui, à la meilleure capacité de puissance, en fait, il faut une puissance de calcul énorme, il faut plusieurs gigawatts disponibles. Donc, il n'y a que des gros acteurs qui peuvent le faire, et rien ne garantit que ces gros acteurs chinois ou américains continuent de publier en open source les poids de leur modèle, donc le paramètre de leur modèle.
Ça donne trop de pouvoir
à l'avenir. Voilà, il y a un risque, et puis, on ne peut pas garantir que l'Europe aura toujours accès à l'investissement des autres. Donc, c'est un pari dangereux de reposer sur l'open source.
Et un peu utopique. Merci Raphaël Dohan d'être venu, essayiste et ancien haut fonctionnaire dans la matinale de l'économie. Dans un instant, on va revenir sur la publication des résultats à la fin des GAFAM, Apple et Amazon. Des résultats, encore une fois, hallucinants. On va voir ça avec Étienne Braque dans le journal de 8h. À tout de suite. Mais tout cela, ce sera après la chronique internationale.
Good morning business, la matinale de l'économie.
Avec ce rapprochement inattendu, la Russie et les talibans, désormais partenaires, Moscou et Kaboul renforcent leur coopération militaire. Pourquoi ces anciens ennemis ont-ils choisi de se revoir et ont-ils besoin de l'un de l'autre? Explication d'Annalisa Capellini et Mathieu Jolivet.
Annalisa, tu veux nous parler aujourd'hui de la Russie qui a un nouvel allié, ce sont les talibans en Afghanistan, raconte-nous.
Oui Mathieu, en fait c'est un allié très précieux avec qui Moscou a même signé un accord de coopération militaire au printemps dernier. Alors ça peut paraître très étonnant parce que il y a un an seulement, les talibans étaient encore sur la liste des groupes terroristes selon le Kremlin. Donc on n'a pas tous les détails de cet accord exactement, mais on sait, puisque ce sont les diplomates d'Afghanistan qui le disent clairement, que cet accord est le signe d'un élargissement des relations bilatérales entre Moscou et Kaboul, puisque l'Afghanistan et la Russie entretiennent des relations historiques et de longue date, et que ces deux pays souhaitent le poursuivre. Je te cite les mots du ministre afghan de la Défense, Mohammad Yaqub.
Justement, ce ministre de la Défense afghan qui parle d'une histoire commune. Alors c'est vrai, il y a une histoire, mais elle n'a pas toujours été simple. L'Union soviétique, rappelle-toi, a envahi l'Afghanistan en 1979, et puis elle a été impliquée dans les pays pendant toutes les années 80 avec des relations très tendues, et on sait que la Russie s'est vraiment empêtrée dans ce bourbier afghan. En octobre 2001, juste après l'effondrement des tours jumelles à New York, l'opération américaine Enduring Freedom va même renverser le régime taliban. Mais à l'époque, Moscou sera accusé de fournir de la logistique et des armes aux talibans pour qu'ils se battent contre les Américains, justement.
Exactement. Et d'ailleurs, les Américains et les Russes ont les deux laissé derrière eux énormément d'armements de l'époque. Et donc, les gouvernements afghans successifs ont réussi à en récupérer une partie et à les intégrer dans leur propre arsenal. Donc, Moscou et Kaboul ont conclu un autre accord très récemment, justement, sur ce sujet. Là, il s'agit d'un accord purement technique qui prévoit que les Russes vont aller aider l'Afghanistan à réparer et à remettre en état tous les armements de fabrication soviétique qui se trouvent dans le pays. Eh bien, c'est là qu'on comprend finalement pourquoi les talibans tiennent autant à se rapprocher de Moscou. Je vais citer encore le ministre afghan de la Défense qui, quand il a annoncé l'accord avec les Russes, il a aussi adressé un avertissement au Pakistan, le voisin et le grand ennemi de l'Afghanistan. Bientôt, Islamabad ne va plus oser attaquer Kaboul grâce au soutien des Russes. Voilà ce qu'il a dit.
Et on voit que les Russes y trouvent aussi leur intérêt, forcément, dans cette alliance. D'un côté, il y a Moscou qui essaye de trouver de nouveaux alliés, alors que Moscou est de plus en plus coupé de ses réseaux occidentaux depuis l'invasion russe en Ukraine en février 2022. On a vu les Russes se rapprocher de la Corée du Nord, de certains pays africains, de certains pays du Golfe, mais aussi de pays d'Asie centrale. Et puis un autre intérêt aussi de collaborer avec les talibans, c'est que ça permet à Moscou de se créer un véritable tampon sécuritaire contre l'État islamique au Khorasan. Et ça, on entend peu parler de ce groupe terroriste. C'est une branche centra-asiatique de l'État islamique qui opère dans des zones tribales entre le Pakistan et l'Afghanistan. Et Moscou s'inquiète bien sûr de la présence de ce groupe terroriste qui a été très affaibli mais qui est encore très dangereux en Asie centrale parce que cela pourrait à terme déstabiliser toute la région et donc par effet domino la Russie. Et donc on voit bien que armer et soutenir les talibans, c'est en tout cas à ce stade la solution pour Moscou la plus efficace pour lutter contre cette expansion de l'État islamique au Khorasan.
BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good morning business, Sandra Gandoux.
Il est presque 8h, bienvenue dans la matinale de l'économie. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 9h sur BFM Business. On va revenir sur les publications des GAFAM pour ses derniers résultats sous la direction de Tim Cook. Apple a présenté un nouveau trimestre record dopé encore une fois par l'iPhone. Amazon de son côté est tiré par le cloud. On va faire le point dans cette matinale avec Étienne Brack. Et puis plus de 9 mois après l'entrée en vigueur d'une trêve dans la bande de Gaza, des responsables du Hamas ont confirmé qu'un accord avait été trouvé concernant la question des armes et un retrait progressif des forces israéliennes de la bande de Gaza. On verra ça dans le journal. Dans la prochaine heure, mes invités, il a trouvé la solution à nos pesticides après 15 ans de recherche et développement. Amoeba vient de décrocher la validation de sa substance par la Commission européenne. Son président, Benoît Villers, viendra tout nous expliquer à 8h15. Et puis, il dit être la seule société occidentale à disposer de la technique d'extraction du lithium la plus écologique et la plus performante. Eurodia lève 18 millions pour continuer à s'étendre, notamment en Amérique du Sud. Mathieu Bailly sera dans Parole de Patron à 8h20. La matinale de l'économie, ça continue. Soyez les bienvenus.
Good morning business, le journal.
Et donc encore un trimestre record chez les GAFAM avec Apple hier qui a publié un profit net de 29 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit une hausse de 27% par rapport à l'an dernier. Étienne Brack, en plus de cela, Tim Cook présentait ses derniers résultats en tant que directeur général.
Puisqu'à partir du 1er septembre, c'est John Ternus qui va prendre la relève. Des résultats au-delà des attentes, ce qui a surtout marqué les analystes hier, c'est la vigueur de la croissance de l'activité iPhone, puisque vous avez une croissance des ventes sur l'iPhone iPhone de plus de 22% par rapport à l'an dernier. 54 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur ce segment. C'est juste historique pour un deuxième trimestre. Habituellement, le deuxième trimestre, il est un peu plus faible par rapport aux autres, dans le sens où les clients attendent la sortie du nouvel iPhone en septembre, soit pour s'acheter le nouveau modèle, soit pour attendre des baisses de prix. Eh bien, cette année, ce n'était pas le cas. L'iPhone 17 continue d'être un carton sur ses différentes versions. Les Mac, largement au-delà des attentes, chiffre d'affaires qui frôle les 30% en termes de progression, avec les nouveaux iPhone à moins de 800€, 800$ qui continuent de prendre des parts de marché face au PC. La seule déception, et qui explique en grande partie le moins 6% hier soir en après-bourse, c'est le ralentissement de l'activité service. Ça comprend notamment iCloud, l'Apple Store ou encore Apple Music. Du côté des perspectives, Tim Cook s'est montré prudent dans un contexte où on a une envolée des prix des semi-conducteurs. Pour l'instant, ça n'a pas eu d'impact. Deuxième trimestre, marge brute 50%. Pourquoi ? Parce qu'il y avait du stock chez Apple, mais également chez les revendeurs. Mais là, on commence à rentrer dans le dur, surtout pour la sortie du nouvel iPhone. Et hier soir, lors de la conférence avec les analystes, il a dit, si l'on regarde au-delà de septembre, nous constatons que les prix de marché de mémoire continueront d'augmenter, ce qui pourrait avoir un impact sur la croissance de notre activité. Donc tout cela a pesé hier soir en après-bourse. Ça sera confirmé tout à l'heure à 15h30 à l'ouverture de Wall Street. Bon, il ne faut pas oublier que le titre a touché un record historique cette semaine. C'est le seul titre parmi les GAFAM à être sur un plus haut, plus 23% depuis le début de l'année. Apple qui est même passé devant Nvidia, première capitalisation mondiale.
Merci beaucoup, Étienne Morac. Et pendant ce temps, l'Union européenne lance un giga appel d'offres pour la construction de data centers. Bruxelles annonce mobiliser 30 milliards d'euros pour réduire sa dépendance aux géants américains et asiatiques dans l'intelligence artificielle. Paul Valère.
Faire de l'Europe un continent de l'IA. Avec son appel d'offres XXL doté de 10 milliards d'euros d'argent public et 20 milliards issus du privé, Bruxelles veut changer d'échelle. 18 États membres, dont la France et l'Allemagne, s'allient pour financer la création de 7 centres de calcul dédiés à l'IA. Le gouvernement français s'est positionné pour accueillir l'un d'entre eux. Les lauréats seront désignés en début d'année prochaine, premier coup de pelle espéré dès le premier trimestre. Les premières mises en service sont-elles attendues dès 2028 ? Ces méga-factories devront bien entendu être installées au sein de l'UE et respecter des critères de souveraineté. Leur puissance de calcul sera mise à disposition des entreprises, chercheurs, universités et autres organismes européens. Ces 7 mégasites viendront s'ajouter à 19 centres de données pour IA déjà localisés sur le continent. Bruxelles veut in fine tripler la capacité des data centers européens d'ici 2032, mais il faudra du temps pour rattraper notre retard sur les États-Unis et l'Asie, notamment en matière de puces. Faute de mieux, Bruxelles s'appuie encore sur des fabricants américains comme AMD, Nvidia et Qualcomm.
Dans l'actualité internationale, alors que les yeux sont tournés vers la reprise des combats au Moyen-Orient, le Hamas consent à un accord de désarmement dans la bande de Gaza. Plus de 9 mois après l'entrée en vigueur d'une trêve dans cette zone, des responsables du Hamas ont confirmé qu'un accord avait été trouvé concernant la question des armes et un retrait progressif des forces israéliennes de la bande de Gaza. Donald Trump affirme de son côté sur son réseau social qu'Israël quittera la bande de Gaza une fois que le Hamas sera bien désarmé. Et dans ce contexte géopolitique instable, ce nouvel exemple de l'inflation des dépenses militaires dans le monde. Le tout nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham était hier sur le site de BAE Systems dans le nord-ouest de l'Angleterre pour annoncer un investissement massif de 10 milliards d'euros dans la flotte de sous-marins nucléaires. Investissement stratégique mais aussi industriel. Clara Bidot.
Derrière cette enveloppe, un objectif, renouveler la flotte qui assure la dissuasion nucléaire britannique. Concrètement, le groupe de défense BAE Systems est chargé de construire 4 sous-marins à propulsion nucléaire. Le premier, le HMS Dreadnought, doit commencer ses essais en mer avant d'entrer en service au début des années 2030, indique Downing Street. Ce budget permettra aussi d'accélérer le deuxième bâtiment du programme, le HMS Valiant, et de lancer la construction des 2 suivants. Mais ce plan est aussi pensé comme un investissement pour l'économie britannique. Le gouvernement promet 47 000 emplois et formations, aussi bien sur les chantiers navals que chez les nombreux sous-traitants mobilisés pour le programme. L'idée est donc de renforcer à la fois les capacités militaires du pays et sa base industrielle. Et ce n'est qu'une étape. Selon Downing Street, c'est plus de 73 milliards d'euros qui doivent être consacrés à la dissuasion nucléaire britannique sur les 4 prochaines années.
Retour en France avec Doctolib qui veut utiliser toutes les données santé sur sa plateforme pour la recherche médicale. Le site de rendez-vous en ligne lance un programme scientifique à base d'IA, ce qui suscite beaucoup d'inquiétudes chez les associations de patients. Hélène Cornet.
Doctolib veut améliorer le parcours de soins de ses 50 millions d'utilisateurs, anticiper l'évolution d'une maladie, par exemple, ajuster le traitement ou alerter sur une situation d'urgence. Le site va fournir à des équipes de chercheurs l'intégralité de ces données pour les passer au scanner de l'intelligence artificielle. Médicaments, ordonnances, analyses, elles seront anonymes et conservées 5 ans maximum. Le consentement des patients est accordé par défaut, tout comme celui des médecins, à moins de remplir un formulaire en ligne. Doctolib dit respecter les règles de la CNIL. Les données sensibles seront chiffrées dans un environnement clos et sécurisé. Ce n'est pas suffisant, selon beaucoup d'internautes. La Ligue des droits de l'homme et l'association Que Choisir qui mettent en avant les cyberattaques qui se multiplient dans le domaine de la santé. En mai dernier, la plateforme Almeris s'était fait dérober les données de millions de clients. L'hiver dernier, c'était Cegedim qui était la proie des hackers avec le piratage d'un logiciel contenant les données administratives de 15 millions de Français.
Et puis de nombreux contenus en ligne générés par IA devront bientôt être étiquetés, mesure imposée par Bruxelles qui va s'appliquer au sein de l'Union européenne à partir de ce week-end via des icônes et des labels. La Commission européenne souhaite plus de transparence pour aider le public à distinguer le faux du réel. Paul Valère.
Le défi est de préserver la capacité des citoyens à faire confiance à ce qu'ils voient, entendent et lisent, dit un responsable de la commission. Dès le 2 août, les agents IA, texte, images, vidéos ou sons créés avec l'intelligence artificielle devront clairement être présentés comme tels sous peine d'amende. La commission européenne, à l'origine de cette mesure, a d'ores et déjà publié des modèles de petites icônes qui devront être apposés sur ces contenus, ainsi qu'un guide pour aider les entreprises à se conformer à ces obligations. Plusieurs plateformes ont déjà mis en place leur propre label, TikTok impose depuis mai 2024 aux créateurs de contenu de signaler l'usage de l'intelligence artificielle pour les contenus IA dits réalistes. Instagram et Facebook ont aussi déployé une étiquette intitulée AI Info. Google travaille également avec Nvidia, OpenAI ou Apple à des solutions de marquage numérique et met en garde la commission contre une complexité réglementaire supplémentaire alors que les solutions techniques évoluent encore. Le géant d'Internet estime que le millefeuille de règles censé aider les utilisateurs risque d'être contre-productif.
8h07, les marchés. La tendance ce matin, Étienne Brack.
Un CAC 40 qui est en hausse en préouverture. Plus 0,4%. C'était une très belle séance hier soir du côté de Wall Street. Le Nasdaq a gagné plus de 3%. Le S&P 500, 1,7%. Grâce notamment à Microsoft qui a gagné 15% hier soir à la clôture. C'était sa meilleure séance depuis 2008 avec une croissance du chiffre d'affaires pour l'activité Azure, chiffre d'affaires cloud au-delà des attentes. Ce matin, il faut rester bien accroché également parce qu'on a quand même la bourse de Séoul qui gagne 17%. Vous voyez, 17%. Samsung qui pèse quand même plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière à Séoul s'envole de 27% et SK Hynix reprend 17%. Enfin, on est sur une séance qui est totalement dingue, comme l'ensemble de la semaine à Séoul, avec des baisses parfois de 20% en milieu de séance pour SK Hynix. Et puis là, le titre qui rebondit après les résultats des GAFAM. On en parlait il y a un instant, on en reparlera tout à l'heure à 8h30 et dans le club de la bourse, avec des résultats encore hier au-delà des attentes pour Amazon. Et puis le patron de SK Hynix qui a racheté des actions pour la première fois à une hauteur de 3 millions de dollars, et donc tout cela a été perçu comme un message favorable pour le marché qui achète donc massivement des actions SK Hynix.
Les résultats à suivre ce matin, Étienne.
Oui, encore beaucoup de résultats à suivre. On est vraiment sur les derniers résultats du CAC 40 avec Engie qui annonce un résultat net conforme aux attentes sur le dernier trimestre mais qui revoit à la hausse ses perspectives pour l'ensemble de l'année. Vous avez AXA également qui revoit ses objectifs dans le haut de la fourchette grâce notamment à son activité santé et vie. Crédit Agricole également qui a publié ses résultats ce matin, annonce un résultat net supérieur aux attentes. Résultat supérieur aux attentes également hier soir pour Euronext, quand Saint-Gobain confirme ses perspectives. Au total, on a quand même un cru qui est plutôt favorable sur le deuxième trimestre pour les sociétés du CAC 40. Et puis un dernier mot de EDF, qui n'est plus coté en bourse, mais qui continue de publier ses résultats et qui abaisse ce matin ses perspectives pour 2026 avec la canicule et surtout la baisse des prix spot de l'énergie, puisque vous avez des prix de l'énergie qui sont sur des plus bas de Covid. Et ça, forcément, ça a un impact sur EDF qui revend l'électricité notamment à ses concurrents. Le groupe prévoit désormais une baisse de son EBITDA de l'ordre de 10% alors que précédemment il s'attendait à un léger retrait de cette rentabilité brute.
Merci Étienne, on vous retrouve dans le journal de 8h30 évidemment. Culturia, le meilleur de la saison tout de suite.
Good morning business. Culturia.
Anthony Morel, et si votre prochain job, c'était d'apprendre à une IA à faire votre métier, faudrait être fou pour faire ça. Ça.
Oui.
C'est une tendance qui est en plein essor aux États-Unis.
Oui, absolument. Alors, c'est vrai que c'est un phénomène qui est assez troublant. On pourrait même dire complètement cynique, mais il y a des entreprises d'IA qui se sont créées sur ce modèle très particulier, qui est de proposer à des humains, à vous et moi, eh bien d'entraîner l'IA dans des tâches pour lesquelles vous êtes expert et donc à terme de vous auto-remplacer, si l'on peut dire. Et ça fonctionne très 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 bien. Il y a une entreprise notamment qui s'appelle Mercor qui embauche aujourd'hui des dizaines de milliers de freelances. Donc ça peut être aussi bien des développeurs informatiques, des juristes, des consultants, des journalistes. Et donc le principe, c'est qu'on s'inscrit sur la plateforme, on passe un petit entretien d'embauche avec une IA pour vérifier qu'on est bien expert de son domaine. Et à partir de ça, on va vous proposer eh bien, des tâches à réaliser pour le compte de l'IA. Donc par exemple, un juriste, on va lui faire lire des contrats ou des clauses de non-concurrence qui ont été rédigées par ChatGPT. Et il va devoir détecter ce qui va pas. Ah, là, il y a une hallucination. Ah, là, il y a quelque chose qu'on pourrait améliorer. Un journaliste, il y a des journalistes sur la plateforme, on va lui faire lire des tonnes et des tonnes d'articles générés par l'intelligence artificielle. Et il va dire, ah non, mais là, cette formulation-là, on pourrait peut-être l'améliorer. Ça plairait plus à un lecteur humain. En fait, tout ce qui est impalpable pour l'intelligence artificielle, l'amélioration des modèles pour pouvoir être plus performante et mieux plaire aux êtres humains, eh bien en fait ce sont des humains qui vont faire ce boulot-là pour l'intelligence artificielle. C'est pas mal payé, hein. Pour un juriste par exemple, c'est de l'ordre de $150 de l'heure pour analyser des textes générés par l'intelligence artificielle, et ça fonctionne très très bien. Il y a plus de 30 000 freelances inscrits sur la plateforme aujourd'hui.
Ça dure qu'un temps, parce qu'après vous n'avez plus rien à lui conseiller, vous n'avez plus rien à lui apprendre.
C'est tout le problème. Ouais, c'est exactement ça. C'est un modèle qui est autodestructeur par nature. C'est-à-dire qu'une fois que les modèles d'IA auront intégré tous les enseignements de ces entraîneurs humains, évidemment, elle aura plus besoin d'eux. C'est tout le problème. C'est la première fois dans l'histoire qu'un métier consiste à apprendre à une machine à faire disparaître ce métier. Et l'ironie dans tout ça, c'est qu'en fait, sur cette plateforme, eh bien, on trouve notamment des gens aux États-Unis, qui ont été, par exemple, qui ont perdu leur boulot à cause de l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, ils n'ont plus de boulot et donc ils se recyclent sur cette plateforme et ils apprennent à l'intelligence artificielle à virer d'autres gens dans leur secteur. Non, mais c'est un truc complètement dingue. Et c'est vrai dans tous les secteurs d'activité. Par exemple, il y a une autre entreprise, on parlait de Mercor, mais vous avez aussi Handshake AI. Eux, par exemple, en ce moment, ils embauchent des comédiens sur le même modèle. Donc, ils demandent, c'est bien payé, hein, c'est 70€ de l'heure. Et en fait, les comédiens vont se mettre devant leur ordinateur et ils vont faire de l'impro. Donc, on va leur demander, réponds à l'intelligence artificielle, joue tel personnage. Et en fait, l'IA va analyser comment le comédien joue de manière à ce que l'IA soit de plus en plus réaliste dans les interactions qu'elle a avec l'être humain. Donc en fait, on est vraiment dans la naissance d'un nouveau marché du travail où l'humain devient une sorte de matière première pour entraîner la machine d'une certaine manière.
Alors il y a encore plus fou, il y a une plateforme qui propose de louer votre corps à une IA.
Oui, c'est ça. Ça s'appelle Rent a Human, littéralement louer un humain. Donc oui, parce que l'IA aujourd'hui, elle a quand même une limite majeure, c'est qu'elle est cantonnée à nos écrans. Elle ne peut pas sortir de l'écran. Un jour, on aura des robots à tout faire et ce sera possible, mais pour l'instant, c'est pas possible. Et donc là, le principe de cette plateforme, eh bien, c'est que l'IA réfléchit et l'humain exécute. On va servir de bras et de jambes à l'intelligence artificielle qui va vous donner des missions à réaliser dans le monde réel pour pouvoir améliorer ces modèles. Donc ça peut être, je sais pas, aller dans un supermarché, par exemple, prendre une photo d'un produit, noter le prix, aller dans un restaurant, tester tel plat et me dire ce que vous en avez pensé. Et tout ça, ça va servir en fait à entraîner les modèles d'intelligence artificielle.
C'est l'IA qui vous donne des ordres.
C'est l'IA qui vous donne des ordres et vous êtes payé pour ça. Et il y a plein de gens qui s'inscrivent sur ces plateformes. Hein. Donc là aussi, c'est payé. Alors ça va de 1 à 100€ la tâche. Ça dépend de ce qu'on vous demande de faire. Donc c'est vraiment la gig economy, mais version IA.
Good morning business, French Tech.
C'est Benoît Villers qui est avec moi, président d'Amoeba. Bonjour Benoît Villers.
Bonjour.
Vous étiez en train de me parler passionnément déjà de votre entreprise, une biotech lyonnaise. Dites-nous sur quoi vous travaillez concrètement depuis 15 ans.
Alors, depuis 15 ans, nous travaillons à utiliser l'amibe. Donc, l'amibe, c'est un micro-organisme naturel, si vous voulez, qui a souvent été complètement délaissé parce que l'amibe a été perçue comme pathogène, ce qui est vrai pour 10 amibes, ce qui est faux pour 17 000 amibes.
Ouais.
Donc, il y a un nombre incalculable d'amibes. Vous en avez dans votre corps, j'en ai dans mon corps, tout le monde en a. Dans les milieux aqueux, il y a des amibes. Et donc, personne ne s'est intéressé à qu'est-ce qu'on pouvait faire d'une amibe. Et Amoeba, de façon curieuse, que c'est une petite boîte quand même de 25 personnes à Lyon, est la seule société au monde qui sait faire grossir une amibe, développer une amibe, l'utiliser. Et maintenant, on est en phase de commercialisation, puisque nos produits ont été homologués aux États-Unis, en Europe, dans deux secteurs principaux, qui sont l'agriculture, les biofongicides, et la cosmétique.
Alors, pour les biofongicides, on est en plein débat justement sur les pesticides. Qu'est-ce que ça fait et est-ce que c'est plus écologique que ce qui est utilisé jusqu'à maintenant ?
Alors, c'est plus écologique pour une raison simple, c'est que le but de toute cette opération est de remplacer de la chimie par des produits naturels. Donc, c'est la nature contre la chimie.
Ouais.
Et ce qui est merveilleux, c'est que ça marche. Donc, on a l'objectif simple, en fait, c'est que dans vos aliments, vous ayez moins de chimie et plus de nature. Et en cosmétique, que vous ayez sur votre peau ou sur votre corps, moins de crème avec des intrants chimiques et plus de produits naturels.
Ça s'adapte à quelle culture, ce que vous avez créé ?
Alors, ça aussi, c'est un peu la magie de cette amibe. Cette amibe est sourcée dans les eaux thermales d'Aix-les-Bains. Donc, elle est bio, totalement bio. Elle est sans résidus, éco-friendly, tout ce que vous voulez. Bon. Et dans les cultures agricoles, et là c'est assez particulier, ça va de la vigne, si on a signé des accords commerciaux déjà avec des leaders mondiaux, sur la vigne, ça va sur les légumes, on va en signer bientôt sur les céréales, et ça va s'étendre avec le soja, avec le gazon, avec tout ce que vous voulez.
Oui, donc parce que vous venez de décrocher une validation de cette substance par la Commission européenne, ce qui va faciliter l'homologation dans les pays européens. Donc vous entrez dans quelle phase là aujourd'hui ?
Alors nous rentrons dans une phase d'industrialisation et de commercialisation effective, puisque en Europe, vous savez, l'agriculture est gérée par l'administration quand même. Il a fallu 6 ans et demi. Pour avoir l'homologation. C'est la France qui a géré le dossier. Et une fois que la France a donné son accord, l'ANSES, il y a un effet domino. L'Allemagne va suivre, l'Autriche va suivre, la Belgique, ainsi de suite. Donc l'effet domino va s'appliquer. Et là, nous avons, et c'est ça qui est assez sympathique pour nous, c'est que tous les grands groupes agro sont venus nous voir immédiatement, si vous voulez. Donc, une semaine après avoir l'homologation, on avait déjà les premiers contacts pour commercialiser le produit.
Donc, par exemple, le Hollandais Koppert.
Alors, Koppert n'est pas très connu, mais c'est 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, présent dans 30 pays. Et Koppert, c'est le leader incontestable dans les produits sous serre, dans le monde entier, la pollinisation. Et on a signé un MOU avec Syngenta. Syngenta, c'est 10 milliards de fournitures au monde agricole. Donc, c'est un géant. Voilà.
Et quels autres partenaires dans les tuyaux ?
Il y en a beaucoup, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qu'on a signé ou ce que l'on va signer avec Syngenta ne représente que 30% du potentiel de notre produit. Aujourd'hui, on n'a pas d'accord encore en Amérique latine. On n'a pas d'accord en Asie. On n'a pas d'accord sur le gazon. On n'a pas d'accord sur l'arboriculture. Le champ est absolument extraordinaire.
Le marché est énorme. Et la cosmétique en Chine ? Parce que c'est en Chine que ça intéresse, alors, c'est l'Asie.
Non, je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire que toutes les grandes marques veulent un seul produit. Et comme l'Asie, c'est 85 milliards en cosmétique, si vous n'êtes pas homologué en Asie, ils ne peuvent pas vous prendre. Or, nous sommes homologués dans le monde entier. C'est pas une homologation. On est inscrit sur une liste d'ingrédients qui s'appelle Inki, qui est gérée par les États-Unis. Évidemment, comme c'est géré par les États-Unis, la Chine n'en veut pas. Donc, la Chine a son propre système d'homologation. Donc, nous avons été en Chine et nous sommes en train d'homologuer notre produit en Chine pour qu'il soit vraiment dans le monde entier.
Très très vite, parce que le temps nous est compté, le financement pour justement démarrer cette phase d'industrialisation et de commercialisation ?
Alors le financement, nous avons un partenaire depuis des années qui nous soutient, et c'est vrai que nous sommes ouverts à avoir des partenaires industriels ou des institutionnels, parce que le potentiel de cette amibe est quand même considérable, considérable.
Merci beaucoup, Benoît Villers, d'être venu nous voir ce matin, président d'Amoeba, donc à l'origine de ce biofongicide qui pourrait finalement alimenter toute notre agriculture.
Et la cosmétique.
Merci beaucoup d'être venu dans la matinale
Merci
de
beaucoup,
l'économie.
Madame.
Dans un instant, on va parler d'extraction du lithium verte, elle aussi, et là aussi grâce à une boîte française. À tout de suite.
Good Morning Business, parole de patron.
Parole de patron, ce matin, je reçois Mathieu Bailly. Bonjour.
Bonjour.
Président d'Eurodia. Vous allez me rappeler ce que fait Eurodia. On est ici dans l'extraction du lithium.
Oui, exactement. Eurodia est une société basée à Pertuis. Nous sommes 120 collaborateurs et notre métier, c'est la fourniture d'ensembles industriels dans le domaine de la purification des liquides. Donc, on conçoit, construit, installe un peu partout dans le monde des unités de purification dans tout un tas de domaines industriels, dont celui de l'extraction du lithium.
Ce que ça change, c'est que cette extraction du lithium, normalement, c'est pas très écolo. Vous avez justement la technologie, une technologie plus économe en eau, plus écologique et plus performante. Comment vous arrivez à ça ?
Alors, on arrive à ça avec beaucoup de R&D au départ. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que Eurodia est dans ce secteur particulier et a développé au niveau expérimental laboratoire, puis des démonstrateurs, puis accompagné des acteurs majeurs de la production de lithium pour pouvoir proposer des technologies qui sont effectivement plus respectueuses de l'environnement tout en ayant des objectifs naturellement de performance et économique les plus élevés possibles.
Vos clients, c'est Eramet, c'est Rio Tinto, c'est les gros extracteurs, en effet, qui d'autre ?
Alors, on est sur un certain nombre de sujets dont on pourra parler dans les semaines qui viennent, oui. Puisque bien entendu, nous sommes très actifs sur le secteur, notamment en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. L'Australie sera certainement un terrain de jeu futur pour Eurodia, mais les profils des clients d'Eurodia dans le domaine du lithium sont deux catégories, des très grosses sociétés comme Eramet ou Rio Tinto, et puis parce que le lithium est un composé qui intéresse un certain nombre de start-up françaises, européennes, nord-américaines qui cherchent à investir et qui donc ont des besoins de technologies performantes d'extraction de lithium.
Vous nous rappelez le lithium, dans quel, c'est un composé qui rentre dans quelle fabrication par exemple ?
Dans toutes les fabrications de batteries électriques, que ce soit celle de nos smartphones ou bien entendu les besoins sont drivés beaucoup par la mobilité électrique.
Vous êtes présent dans 50 pays, 80% de votre chiffre d'affaires est réalisé donc à l'international. Il y a beaucoup de mines là-bas, effectivement, en Amérique du Sud, où vous allez vous étendre. Vous venez de lever 18 millions d'euros. C'est une première pour l'entreprise.
Oui, c'est une étape qui correspond à son degré de maturité, je dirais. Oui. Nous passons de l'agroalimentaire à des domaines plus macro. En termes de production, et nous avons besoin de capter la croissance. Pour capter la croissance, on a besoin de trois choses. La première, évidemment, des technologies performantes. La deuxième, une crédibilité financière, par rapport à des acteurs qui ont des attentes par rapport à ses fournisseurs. Et puis, des savoir-être qui permettent de se différencier. On prend pas seulement des contrats parce qu'on a des bonnes technologies, on prend aussi des contrats parce qu'on a les équipes qui peuvent faire comprendre aux clients qu'on va l'accompagner sur le long terme, parce que les projets dont nous parlons s'étalent sur plusieurs années. Des projets industriels comme ceux-là, on rencontre toujours des problèmes, et la préoccupation principale de nos clients, c'est de dérisquer les projets qu'ils vont traverser.
Pour être clair, quand vous signez un projet comme celui-là, par exemple en Amérique du Sud, pour un très gros client, vous signez, et une fois que c'est fait, vous vous installez avec lui, il finance votre installation, le système sur son site d'extraction, c'est ça ?
Oui, absolument. On a fait un choix de développer une engineering totalement intégrée en France, et une fabrication qu'on souhaite le plus française possible, mais qui est européenne pour ce type de technologie, dont nous avons une spécificité, c'est la construction, ce qu'on appelle sur skids, qui permet de transporter des grands ensembles industriels un peu partout dans le monde. Et nous exportons donc en ce moment majoritairement dans le cône sud de l'Amérique du Sud.
Le but, pour finir, c'est aussi de financer des projets industriels de plus en plus importants. Je disais juste avant cette interview que ça y est, la France commence à avoir des projets de ce type qui commencent réellement à... On commence à les voir peut-être à pouvoir créer les fameux champions européens dont qu'on espère tant dans d'autres domaines.
Oui, absolument. Moi, en tant qu'ambassadeur French Fab, je suis très attaché effectivement à la promotion de l'industrie française, et vous avez tout à fait raison. Dans tout un tas de domaines, les nôtres, mais dans tout un tas d'autres, il y a effectivement des champions français qui sont en train de monter et qui commencent à faire rayonner une image de haute technologie, d'accompagnement des clients à l'international.
Et ça, finalement, beaucoup dans le domaine écologique, c'est, vous l'avez dit, le résultat d'années et d'années de recherche et développement. C'est peut-être ça, hein, le pessimisme qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a attendu ces projets très longtemps et que ça y est, commence à arriver.
Oui, absolument, mais les projets en question sont des projets d'ampleur. Hein. Quand on parle de production de lithium, on parle d'investissements de plusieurs milliards, dont les décideurs dans le climat géopolitique qui est le nôtre prennent peut-être un peu plus de temps qu'à l'habitude pour les déclencher, et donc il nous faut être prêts et donc avoir une R&D mature, des propositions industrielles pérennes. Je crois qu'on en est là aujourd'hui, effectivement.
Et c'est rassurant. Merci beaucoup Mathieu Bailly d'être venu ce matin, président d'Eurodia, dans la matinale de l'économie.
Good morning business, le journal.
Les titres à 8h30, les résultats solides d'Amazon dopés par le cloud, le marché automobile mondial en panne, mais les voitures électriques qui continuent d'accélérer, et puis Javier Milei qui veut réformer la Banque centrale d'Argentine. Après Microsoft et Meta, mercredi, c'est donc Apple et Amazon qui ont publié hier, et c'est encore bien au-delà des attentes. Amazon, 62,6 milliards de dollars de profit net au dernier trimestre, soit plus du triple de celui d'il y a un an. Étienne Braque, comme chez Microsoft, c'est le cloud qui porte la croissance.
Avec AWS, Amazon Web Services, qui a vu sa croissance bondir de plus de 37% au deuxième trimestre. C'est au-delà des attentes, hein, comme chez Microsoft, qui d'ailleurs s'est envolé de 15% à la clôture. Hein. C'était une séance historique pour Microsoft hier. En dehors de AWS, vous avez également une activité dans le e-commerce qui est au rendez-vous. Et donc, vous avez le titre Amazon qui était en très forte hausse hier soir à la clôture, d'autant plus que la rentabilité suit. Hein. C'est bien d'avoir une croissance du chiffre d'affaires, mais les analystes regardent bien sûr la marge opérationnelle. Et en ce qui concerne la marge opérationnelle de AWS, elle est sur des plus hauts d'un an au-delà des 40%. Après la publication de ces résultats, vous avez un groupe qui se dit très confiant pour cette année, au point même qu'il va augmenter ses dépenses d'investissement. Finalement, ça ne sera pas 200 milliards de dollars de CAPEX pour cette année, mais 220 milliards de dollars, parce que d'après le patron, il n'y a pas assez de capacité pour répondre à la demande en 2026, en 2027 et probablement en 2028. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets, hein, par rapport à ses capacités d'investissement, par rapport à la rentabilité, mais on a vu que Microsoft a essayé de rassurer par rapport à cela et ça fonctionnait. Et là, visiblement, c'était la même chose hier pour Amazon. Par rapport au profit que vous avez souligné, 62 milliards, le problème, et c'est un petit peu le point commun entre tous ces GAFAM, c'est que ce sont surtout des résultats qui sont tirés par des participations dans des startups, en l'occurrence chez Amazon par Anthropic, puisque sur les 62 milliards de profits nets réalisés au deuxième trimestre, ben vous avez 53 milliards qui viennent d'une participation dans Anthropic. Néanmoins, le résultat opérationnel était au rendez-vous et visiblement, ça rassure les marchés. Ça sera confirmé tout à l'heure à Wall Street à 15h30.
Merci beaucoup, Étienne Braque. Des résultats semestriels aussi dans l'automobile et Ferrari en bonne forme. Le constructeur de luxe italien enregistre un bénéfice net de 463 millions d'euros au deuxième trimestre, en hausse de 9%. Les détails de ces résultats avec Justine Vassogne.
Ce trimestre, Ferrari a dépassé les attentes des analystes avec un bénéfice en hausse de 9% sur un an et un chiffre d'affaires en augmentation de 8%. Le constructeur a pourtant vendu un peu moins de voitures, 128 de moins précisément qu'il y a un an, mais il en a livré des plus chères avec de bons résultats pour sa Ferrari F80 vendue en édition limitée à 3,6 millions d'euros. Mais ce qui porte le groupe, explique son PDG Benedetto Vigna, ce sont surtout les demandes de personnalisation des voitures. Les clients veulent de plus en plus modifier leurs véhicules pour les rendre uniques, et ça rapporte gros à Ferrari, lui permettant même d'augmenter ses prévisions pour 2026. Le carnet de commandes du constructeur est rempli jusqu'à la fin 2027. Le groupe se dit très satisfait des prises de commandes sur la Luce, sa première voiture 100% électrique qui avait pourtant provoqué un tollé à son lancement. La plupart des aficionados de la marque la jugeant tout simplement moche. Selon le FT, Ferrari aurait en deux mois atteint ses objectifs de vente annuels pour la Luce et écoulé 500 modèles grâce à une forte demande en Chine.
Pendant ce temps, le marché de l'automobile mondiale lui reste en panne, mais les voitures électriques continuent d'accélérer. François-Xavier Roux, elles devraient représenter près d'un tiers des voitures neuves vendues dans le monde cette année.
Effectivement, Sandra, l'électrique continue de grappiller des parts de marché. Rappelez-vous, les véhicules électriques représentaient 20% des ventes en 2024, 25% l'an dernier, et cette année, ce chiffre devrait s'élever à 29%. L'Agence internationale de l'énergie s'attend à ce que 23 millions de véhicules électriques soient vendus cette année, soit une progression de 10% par rapport à 2025. Et cela s'explique par la crise de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient et la hausse des prix des carburants. Conséquence, les ventes ont rebondi de 4% au deuxième trimestre pour 5 millions de véhicules vendus.
Et cette hausse mondiale est portée tout particulièrement par un continent, le nôtre, François-Xavier.
C'est ça, exactement Sandra. L'Europe est clairement le moteur de cette croissance. Les ventes au premier semestre 2026 ont bondi de 30% cette année comparée à 2025. Dans le détail, l'Allemagne a vendu 140 000 modèles supplémentaires. En France, les ventes ont augmenté de 95 000 véhicules électriques. En revanche, la dynamique est moins favorable aux États-Unis, où les ventes sont en dessous de leur niveau en 2025. Même constat en Chine, où pour la première fois de la décennie, les ventes devraient stagner aux alentours de 13 millions de véhicules vendus, ce qui représente quand même 60% du marché local. Ce ralentissement est compensé par l'essor de d'autres marchés asiatiques. Les ventes ont quasiment doublé au Vietnam, en Inde ou encore en Corée du Sud, mais aussi en Australie.
Merci François-Xavier. Xavier Roux, à l'étranger, Javier Milei a détaillé plusieurs réformes qu'il entend présenter au Parlement, dont celle de la Banque centrale d'Argentine. Il entend interdire à l'institution monétaire de financer l'État et a, je cite, « blindé son président contre les abus de pouvoir politique ». Écoutez le président argentin.
Estamos aquí.
Nous sommes ici pour vous présenter un ensemble de réformes structurelles, le plus important de ces 91 dernières années. Avec la réforme de la charte de la Banque centrale, nous allons mettre fin à l'escroquerie qui consiste à émettre de la monnaie pour financer la haute sphère publique, dont la conséquence la plus évidente est le taux d'inflation. Une escroquerie plus communément appelée impôt inflationniste, un impôt qui permet d'augmenter les recettes fiscales sans l'autorisation du Parlement.
Los ingresos tributarios sin autorización del Congreso.
8h37, les marchés.
Votre rendez-vous avec N2F, la solution qui simplifie vraiment la gestion de vos notes de frais. Plus d'infos sur n2f.com.
La tendance à 22 minutes de l'ouverture, Étienne Brack.
Plus 0,2% pour le futur à Paris. Dernière salve de résultats ce matin, avec les résultats de Crédit Agricole supérieurs aux attentes. Vous avez également AXA qui dépasse les attentes du consensus et qui revoit à la hausse ses objectifs dans le haut de la fourchette. Et puis hier soir, c'était Euronext qui avait annoncé un trimestre record avec une hausse du profit net de quasiment 20%, marge d'EBITDA 66%. Le titre est en hausse de plus de 3% en préouverture. Saint-Gobain a également fait part de ses résultats trimestriels ce jeudi soir. Le groupe qui confirme ses objectifs, qui montre une certaine forme de résilience quand même, au vu du contexte actuel. Hier soir, ça s'est plutôt bien passé pour les grands groupes du CAC 40. Quand vous regardez Schneider qui a gagné 10% après ses résultats, Bouygues plus 7, Société Générale plus 5. À l'inverse, c'était compliqué pour Sanofi qui a perdu 9%. Et puis le gadin du jour dans les small limit cap, c'est Wavestone, cabinet de conseil qui s'est effondré de 30% après la publication de ses résultats. Le groupe voit une certaine forme d'attentisme de la part de ses clients, des clients qui mettent tout sur l'intelligence artificielle. Alors c'est bien, ça prend une part de plus en plus importante du chiffre d'affaires, mais ça ne compense pas les autres activités, et donc le titre Wavestone s'est littéralement effondré de plus de 30%. Ça montre bien qu'il y a énormément de volatilité à l'occasion de ces résultats, avec donc Microsoft qui a gagné plus de 15% hier après la publication de ses résultats. C'était quand même la meilleure séance depuis 2008, hein, c'est pas neutre. Et puis alors ce matin, plus 27% pour Samsung, hein, que dire quand même, c'est pas une small cap, hein, ça pèse plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière, quand SK Hynix qui s'était effondré de quasiment 20% à l'espace d'une séance en milieu de semaine, reprend quasiment 17% avec son dirigeant qui a racheté des actions hier, et ça c'est bien vu pour le marché, et donc tout cela profite à la bourse de Séoul qui gagne plus de 10% ce matin.
On va vous retrouver dans un instant pour le club de la bourse. C'est quoi le programme, Étienne?
Nous allons revenir sur cette très forte volatilité sur les valeurs technologiques, et puis un bilan des GAFAM, hein, puisque après Alphabet la semaine dernière, eh bien, ce sont les quatre autres qui ont publié leurs résultats mercredi soir et jeudi soir. La Fed également qui a un petit peu inquiété les investisseurs mercredi. Nous verrons tout cela dans un instant avec Guillaume Girino de Carlton Sélection, Aurélien Lux de Galilée Asset Management, et puis à 9h5, c'est Stéphane Houry de Odo BHF qui nous accompagnera pour revenir justement sur ses résultats d'entreprise, mais également sur Euronext qui a publié donc des résultats largement au-delà des attentes hier soir.
Le club de la bourse avec Étienne Brack donc dans un instant, et lundi vous serez entre les mains d'Erwan Maurice dès 7h. Passez une très bonne journée sur BFM Business.